100.9.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Calade dans l'interview du jour. Avec nous en studio, Cécile Thomas et Patricia Rudelli. Bonjour à toutes les deux.
Bonjour.
Bonjour.
Cécile, vous êtes médecin néphrologue.
Tout à fait.
Donc la spécialité, c'est les reins.
C'est la spécialité médicale qui s'occupe des maladies rénales, des dysfonctionnements des reins.
Ok, et Patricia, vous êtes diététicienne et spécialisée un petit peu sur cette même thématique.
Oui, tout à fait. Diététicienne, donc spécialisée dans toutes les pathologies qui tournent autour du rein.
Très bien. Et vous venez nous présenter une association qui s'appelle Bouge ton rein. Et donc, on va parler aujourd'hui des reins et des maladies qu'il y a autour. Déjà, moi, je ne suis pas très bon en biologie, en SVT. Ils servent à quoi, les reins, dans l'organisme? Est-ce que vous pouvez me rappeler les bases un petit peu?
Oui, bien sûr. Alors, les reins sont habituellement en nombre de deux. Ce sont des organes qui sont très importants pour le corps. Ils ont des fonctions qui sont multiples. La première, évidente, c'est celle de produire l'urine. Mais au-delà de ça, c'est en fait filtrer le sang afin d'éliminer les déchets qui vont être produits par notre corps ou qui vont rentrer dans notre organisme par l'extérieur. Donc éliminer ces déchets et également ajuster de façon très fine dans le corps nos composants, le sodium, le potassium, le bicarbonate, le calcium. Ils ont également par ce biais-là un rôle de régulation de la pression artérielle, un rôle de la régulation de l'eau dans le corps.
Ils ont beaucoup de boulot, j'ai l'impression.
Ils ont vraiment beaucoup de boulot. Ils sont très sollicités chaque jour, chaque heure, chaque minute. Ouais. Et évidemment, lorsqu'ils dysfonctionnent, eh bien, on comprend, compte tenu de toutes ces missions, qu'il y a un certain nombre de choses qui se passent négativement dans le corps et qu'il faut qu'on traite.
C'est quoi les maladies courantes qui sont en lien avec le rein? J'imagine qu'il y a des choses qui sont un peu plus courantes que d'autres. Il doit y avoir des maladies rares, mais qu'est-ce qui peut facilement abîmer les reins chez les hommes et les femmes?
Alors, je dirais qu'une maladie fréquente, qui n'est pas forcément grave, mais qui est quand même gênante dans la population générale, c'est tout ce qui va être la maladie lithiasique, autrement dit les calculs, les coliques néphrétiques.
Okay.
Encore une fois, toutes n'ont pas des critères de gravité. Certaines peuvent en avoir de façon un peu rare, mais en tout cas...
Les calculs rénaux, je crois que c'est quand même grave.
Bah, c'est surtout très douloureux. C'est okay. Surtout très douloureux quand le calcul se coince dans la voie urinaire. Ça génère des douleurs qui sont très intenses. Les crises de coliques néphrétiques, les personnes qui en ont fait, se rappelleront des mauvais souvenirs. Mmh. Dans la majorité des cas, ça peut être des choses, encore une fois, pas graves, surtout des déséquilibres un petit peu hygiéno-diététiques, le fait de ne pas assez boire, le fait d'avoir une alimentation pas tout à fait équilibrée. Encore une fois, dans certains cas, certains calculs peuvent être liés à des maladies métaboliques qui peuvent être plus graves, mais ce n'est pas la majorité des cas. Mais en tout cas, c'est fréquent et c'est gênant dans la population. Donc en tout cas, c'est une maladie qu'on rencontre régulièrement et qu'on prend en charge avec Patricia. Ça, c'est vraiment pour améliorer quand même la qualité de vie des patients. Et puis l'autre gros versant de la pathologie rénale, c'est l'insuffisance rénale. Les insuffisances rénales aiguës arrivent, peuvent être parfois graves. C'est pas l'essentiel de notre suivi, on va dire. Mais les insuffisances rénales chroniques, ça veut dire un dysfonctionnement sur le long terme, effectivement, des reins. Ça, c'est quelque chose de fréquent et c'est vraiment ce qui nous préoccupe.
Et qu'est-ce qui se passe? C'est le rein qui n'est pas assez efficace pour faire tout son travail
Exactement. À cause de, pour des raisons diverses et variées, ouais. Parce qu'il y a de très nombreuses maladies qui peuvent malheureusement retentir sur les reins.
J'imagine que vous n'allez pas nous expliquer tout votre métier de médecin en cinq minutes.
mais justement, le sujet est important parce qu'il y a de très nombreuses maladies qui peuvent retentir sur les reins et entraîner une perte de la fonction au niveau des reins. Mais la maladie quand même la plus fréquente, ou en tout cas 50% des insuffisances rénales sévères sont en lien avec le diabète, et en particulier le diabète de type 2. Donc c'est au cœur, je pense que ça va être au cœur de notre discussion dans un second temps, puisque quand même quand on parle de diabète de type 2, de surpoids, d'obésité, on parle quand même de prévention, on parle de régulation diététique, et le cœur de notre association quand même... est là. En tout cas, à ce moment-là, les reins ne sont plus capables d'assurer leur fonction de façon complète. Donc il y a effectivement non seulement filtrer le sang, éliminer les déchets, comme je l'ai dit, Et il y a aussi toutes les fonctions annexes, parce qu'en fait, c'est au niveau des reins qu'est produit l'EPO. Donc avec l'insuffisance rénale, on sera en déficience de production d'EPO, donc on va souffrir d'anémie.
L'EPO, j'ai pas, c'est quoi ?
Eh bien, c'est une hormone qui aide la moelle osseuse à produire les globules rouges. On okay. connaît l'EPO parce que anciennement, voilà, on entendait beaucoup parler ça dans le monde du cyclisme, ou okay. pour optimiser leur performance, optimiser leur taux d'oxygénation, ils se dopaient à l'EPO.
Ouais. Les globules rouges, c'est ça, c'est ils acheminent l'oxygène, donc c'est eux qui font fonctionner les organes.
Exactement, bah, ça se passe au niveau du rein, ça c'est pas bien connu, mais en fait c'est le rein qui produit effectivement l'EPO. Le rein, je vous ai parlé de son rôle dans la pression artérielle, l'eau, je vous ai parlé des bicarbonates, je vous ai parlé du calcium, il participe aussi au métabolisme osseux, donc un patient qui a une insuffisance rénale va avoir un os qui va se fragiliser. Donc voilà, c'est l'ensemble de ces fonctions qui se dégradent, et plus le stade de la maladie est sévère, et plus les troubles sont graves également.
Quand j'ai vu le logo de votre association Bouge ton rein, j'ai trouvé que ça ressemblait à des poumons, les reins, et je ne me rendais pas compte de l'importance de cet organe. Quand on pense aux organes importants dans le corps, je pense au cœur et aux poumons, peut-être au cerveau. Je ne pense pas aux reins, mais là, de ce que vous me dites, c'est quand même un truc un peu central quoi, dans le corps humain.
Je ne vais pas vous dire le contraire. C'est hyper important. Et la particularité en fait, de la maladie rénale, c'est qu'elle est volontiers silencieuse. Alors, je vous ai parlé des coliques néphrétiques, où là, c'est très bruyant, ça fait mal. OK, on ne l'oublie pas. Mais en réalité, l'insuffisance rénale peut être totalement asymptomatique jusqu'à des stades très avancés d'insuffisance rénale. Pareil, l'hypertension artérielle, qui est souvent un symptôme associé à l'insuffisance rénale, peut être... encore une fois, totalement silencieuse, jusqu'à des chiffres très élevés de pression artérielle qui vont avoir un retentissement majeur sur le corps. Et effectivement, c'est pour ça que, encore une fois, nous, c'est notre association, elle a aussi cette fonction-là d'informer. On a des reins, ils sont hyper précieux. C'est pas parce qu'on n'a pas de symptômes qu'ils vont forcément bien. Il faut aller voir son médecin généraliste de temps en temps, prendre sa tension, surveiller... son poids, est-ce qu'on fume ou pas, enfin s'occuper un petit peu de soi.
Et bien justement, moi, j'allais vous demander comment est-ce qu'on entretient ses reins. Je pense que peut-être c'est Patricia, diététicienne, qui... C'est un lien avec l'alimentation ?
Alors oui, complètement, hein, comme Cécile Thomas l'a précisé, c'est vrai que le rein va avoir une fonction d'épuration. Ouais. Donc en effet, l'alimentation va apporter tout un tas d'éléments contenu dans les aliments, le calcium, le potassium, le sel, les protéines. Et donc, en effet, les apports qui vont être trop supérieurs, finalement, aux besoins du corps vont solliciter le rein pour éliminer donc le surplus.
Okay.
Et effectivement, l'alimentation, donc plus on va manger au-delà de ses besoins nutritionnels, et plus on va solliciter nos reins qui sont précieux, et on va les faire travailler. Et donc, en effet, le patient à qui on a découvert une insuffisance rénale chronique, donc les reins vont être... fatigués, vont en difficulté. On va demander aux patients justement d'adapter l'alimentation en fonction de ce que le rein va pouvoir éliminer.
Ouais.
Et donc la santé, bien sûr, comme je dis souvent à mes patients, l'alimentation est un soin. Mmh. C'est vraiment... donc on va chercher à adapter l'alimentation en fonction des besoins du patient, mais aussi en fonction de ses possibilités.
Ouais.
C'est vraiment quelque chose de très personnalisé. On a des patients qui vont pouvoir modifier l'alimentation, certains un peu, d'autres moins.
Ouais. Et on peut s'adapter à chaque patient.
Exactement. Ouais. Voilà, le travail mon travail en tant que diététicienne, c'est vraiment d'accompagner le patient et de poser des objectifs nutritionnels en fonction de ses possibilités.
Ouais. Il ne peut pas y avoir un menu unique pour, qui marcherait pour tout le monde, ça ne marche pas.
Alors non, ça ne marche pas justement, on se bat un petit peu contre ça. Déjà, par rapport aux patients qui vont aller voir sur Internet et qui vont trouver tout un tas de...
Il faut éviter quand on est malade d'aller regarder sur Internet.
C'est ce qu'on dit, mais encore plus, j'ai envie de dire, pour l'alimentation, parce qu'on s'aperçoit aujourd'hui que tout le monde y va de sa petite histoire, qu'on est en...
Il suffit d'avoir lu un bouquin pour se proclamer expert.
C'est ça. ou alors, bon voilà, maintenant tous les coachs qui fleurissent sur Internet ou autre. Non, il faut vraiment que la personne aille voir un professionnel de santé qui est formé dans la maladie rénale.
Diplômé.
En effet, pour être accompagné et ne pas, créer d'autres problématiques autour de sa pathologie, notamment des troubles du comportement alimentaire, parce qu'un patient va être trop restrictif, parce qu'il aura entendu telle ou telle information et donc va perdre du poids. Et on sait que c'est des patients qui sont fragiles, qui sont à risque de dénutrition. Et donc, cet accompagnement se fait vraiment par un professionnel de santé. Donc, l'association, c'est aussi pour ça qu'on l'a créée.
Ouais.
C'est d'apporter une aide à nos patients, à leurs aidants. Parce que souvent, si le mari est malade, c'est la femme qui cuisine. Et pour le coup, il faut embarquer tout le monde à...
Connaître la maladie, ce qu'il faut faire, etc.
C'est
au courant.
C'est très important que le patient comprenne pourquoi on va mettre en place telle ou telle adaptation.
Et de plus en plus dans toutes les maladies, j'ai l'impression que les aidants sont de plus en plus impliqués et pris en compte dans le monde médical, parce qu'ils sont concernés.
Ils sont complètement concernés. Ils ont besoin d'aide, ils ont besoin de soutien aussi. Nous, on propose régulièrement des ateliers cuisine qui sont des moments de partage, des moments conviviaux avec les aidants, avec les patients.
S'intéresser plus spécifiquement à l'association. Là, on a parlé des reins, des maladies de façon un peu générale. Comment est-ce que vous vous êtes dit on va créer du coup une association autour de cette thématique et qui en fait partie de cette association ? Bouge ton rein.
Eh bien, l'idée de l'association est venue un petit peu naturellement, en fait, au sein du service de néphrologie de l'hôpital Nord-Ouest à Villefranche-sur-Saône, qui est un service en fait assez jeune. Ça fait 6 ans qu'il existe, donc on n'a pas pu tout créer en même temps, et notamment une des choses qui est très importante en maladie chronique, c'est l'éducation thérapeutique du patient. Donc, c'est ce qui est une discipline un peu particulière au sein d'un service, on va dire. Donc, comme vous ne pouvez pas encore une fois tout mener de front au sein de ce jeune service, l'idée de l'association est venue comme ça, parce que c'était justement une des façons de pouvoir faire quand même de l'éducation thérapeutique. C'est Patricia en premier qui a quand même donné un petit peu le souffle à ça, avec d'autres soignants, d'autres infirmiers notamment du service. Et l'association a été créée en
2023. Voilà.
Donc, elle est encore un peu jeune. Mais...
Donc, elle est vraiment toute jeune, ouais. En effet. Et puis, on a des patients qui nous ont rejoints dans l'association, qui sont très actifs, qui, justement, sont impliqués de par leur pathologie, mais aussi parce que c'est important pour eux de faire connaître cette pathologie, puisque on a Nelly qui dialyse, qui est une jeune femme qui dialyse et qui connaît la difficulté justement de
vivre. On n'a pas parlé de dialyse spécifiquement. Moi, la dialyse, je l'ai vue que dans des séries ou des séries télé où on en a une image où c'est pas des moments rigolos. On est assis sur un fauteuil et ça dure des heures, c'est ça ?
C'est ça.
C'est une des façons de voir les choses, mais effectivement, c'est la façon, on va dire, la plus négative. En fait, j'ai parlé tout à l'heure des différents stades de l'insuffisance rénale. Bon, la maladie rénale chronique est une maladie fréquente, ça touche 10% de la population générale.
Ouais.
Mais l'insuffisance rénale chronique, et en particulier au stade 5, qui est le dernier stade de l'insuffisance rénale, heureusement, c'est plus rare. Ça concerne quand même, grosso modo, 90 000 personnes, avec 10 000 nouveaux patients par an, un taux de mortalité malheureusement qui est élevé à ce stade-là, puisqu'il y a également à peu près 10 000 patients décédés par an. Et la répartition de ces patients, c'est 50 000 patients qui sont dialysés et 40 000 patients qui sont greffés. Et donc, effectivement, l'idéal de la prise en charge de l'insuffisance rénale chronique du stade 5, c'est la greffe, mais ce n'est pas si facile. Il faut un parcours pour être éligible à la greffe, pour être inscrit sur liste d'attente. Ensuite, il faut attendre un greffon. J'espère que vous êtes sensibilisés au sujet de la pénurie de greffons et aux difficultés qu'ont les patients à avoir accès à un greffon. Et certains patients ne peuvent pas être greffés en raison de leur état de santé ou de leur âge, voilà. Et effectivement, quand on ne peut pas être greffé, soit on bénéficie d'une prise en charge purement médicale sans recours à la dialyse, quand on est trop fragile pour subir un traitement tel que la dialyse qui est lourd, soit parce qu'on refuse en fait une vie de contrainte. Alors là, si on ne dialyse pas et qu'on n'est pas greffé, effectivement, à terme, ce n'est pas compatible avec la vie. L'insuffisance rénale chronique est une maladie mortelle.
Ouais.
Et donc sinon, on attend un greffon en dialyse. Avec plusieurs modalités, il y a plusieurs façons de faire de la dialyse. On peut faire de la dialyse en centre, on peut faire de la dialyse à domicile. Voilà, c'est variable en fonction du mode de vie du patient, en fonction des comorbidités. Mais dans tous les cas, c'est quand même une vie de contrainte et c'est quand même lourd.
Effectivement, ça donne, ça fait un peu peur. Les missions de votre association Bouge ton rein, il y a la prévention. J'ai l'impression qu'on est en plein dedans, là, expliquer un petit peu comment ça fonctionne. Il y a le dépistage. Ça se passe comment, le dépistage des maladies rénales ?
Alors, la mission de dépistage, la première, c'est de parler des reins.
Okay.
Et que les gens en population se disent « Ah bah tiens, oui, c'est vrai, et comment vont mes reins ? Et comment est ma tension ? C'est vrai que je fume depuis longtemps, je sais que c'est pas très bon pour ma santé, y compris pour les reins, je le précise. Hein, le tabac, c'est pas que les poumons et le cœur, hein, en fait, c'est les vaisseaux, l'augmentation du risque de cancer de nombreux organes. Enfin, bref, c'est vraiment...
Global.
Très, très néfaste, très, très néfaste. Et donc, voilà, d'induire une réflexion en population et de se dire, je vais peut-être aller voir mon médecin. Et puis, on a eu l'occasion également cette année, à l'occasion de la Semaine du Rhin, de faire une journée de dépistage à la pharmacie Bandel à Belleville, où on a proposé un dépistage minimal avec un petit interrogatoire, une bandelette urinaire, une mesure de la pression artérielle, au tout venant à la pharmacie. Et on espère renouveler ça, parce que c'était vraiment bien.
Ouais.
Donc en ça, on espère favoriser le dépistage. Et puis la prévention, comme on disait, 50% des insuffisances rénales chroniques au stade 5 sont liées à des maladies métaboliques et en particulier le diabète. Alors tous les diabètes ne sont pas évitables, mais quand même, le facteur de risque pour le diabète de type 2, c'est quand même le surpoids, l'obésité, la sédentarité, l'alimentation pas forcément équilibrée. Et c'est vraiment dommage voilà, des fois de constater des insuffisances rénales qui sont sévères comme ça qu'on aurait pu éviter.
Plutôt ou éviter. Il y a l'accompagnant des patients et des aidants dont on a parlé et le don d'organes aussi qu'on a évoqué. C'est possible de donner un rein, enfin, je connais l'expression « ça coûte un rein », mais je ne sais pas du tout comment ça se passe, le don de greffon dont vous avez parlé. Est-ce que si je donne un rein, j'en aurai plus qu'un, donc je serai en danger. Comment ça marche? Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu?
Oui. Alors, historiquement, on va dire, le don d'organes se fait par don cadavérique. Okay. C'est-à-dire les personnes qui sont victimes de tel accident médical, qui vont être en état de mort encéphalique et en situation de pouvoir donner leurs organes. Alors la difficulté de ça, c'est que par définition, c'est jamais quelque chose de prévu. Mmh. Et que si on n'a pas dit avant qu'on était donneur, eh bien, on interroge en règle générale la famille. Et en plus de l'information très brutale de la perte de leurs proches, doivent prendre des décisions
très rapidement.
Voilà. Alors il faut savoir qu'en France, la loi est telle que nous sommes tous considérés comme donneurs, en fait, sauf si on s'est exprimé, sauf si on a exprimé en fait son refus de son vivant. La façon la plus certaine d'exprimer ce refus, c'est de s'inscrire sur la liste nationale des refus, ou à minima d'en avoir parlé à ses proches. Normalement, si rien n'a été dit, on est tous considérés par la loi comme donneurs. Mais voilà, okay. Encore une fois, dans les services de réanimation où les patients dans cette situation sont pris en charge, ben, il y a heureusement toujours une humanité qui s'installe, enfin qui est présente, et voilà, on informe quand même la famille et on dit, ben, est-ce qu'il s'est exprimé sur le sujet, oui ou non, et sinon, ben, qu'est-ce que vous en pensez, qu'est-ce qu'il aurait dit, est-ce qu'il aurait été d'accord pour donner ses organes? Et les familles qui ne savent pas, dans le doute, disent non.
Okay.
C'est ce qu'on appelle le taux d'opposition au don. Et en Rhône-Alpes, les derniers chiffres étaient de 38%, ce qui est beaucoup.
Ouais.
Parce que ben, pendant ce temps, voilà, encore une fois, c'est des patients qui attendent un greffon. Et donc, encore une fois, le fait de parler, c'est de pouvoir générer au sein des couples, au sein des familles, ce genre de discussion. Ah ben voilà, j'ai entendu parler de ça.
Il faut dire à ses proches, si on est d'accord, donné, c'est hyper important de
c'est
dire...
C'est hyper important.
Okay.
C'est hyper important. On peut même...
Si on est vraiment...
Exactement. Voilà, si on est très... très convaincu, si ça nous tient à cœur, pas hésiter à mettre un papier dans le portefeuille. Voilà.
Ouais.
Donc ça, c'est la première modalité.
Ouais.
Et en réalité, il existe également la possibilité de don du vivant.
Ouais.
Donc ça se fait également dans certaines conditions. En fait, on essaye de développer ce don du vivant parce qu'on a une pénurie de dons cadavériques et puis une inadéquation entre l'offre et la demande, quoi, entre guillemets. Et donc là, le don vivant, bah, je vous l'ai dit, les reins, en règle générale, on en a deux et on peut tout à fait vivre avec un seul rein.
Okay.
Et donc, on peut donner un de nos deux reins à un proche, conjoint, parent, enfant, ami, dont on peut faire la preuve d'une relation étroite depuis au moins 2 ans, cousin.
Ah, mais c'est légalement, du coup, il y a une clause comme quoi il faut qu'on soit proche de la personne. On ne peut pas donner un rein à
n'importe qui. Non. Alors après, il y a des modalités plus fines de dons croisés, c'est-à-dire quand on a des pairs donneurs-receveurs qui sont pas parfaitement dont l'appariement est pas parfait, on peut faire des dons croisés avec une autre paire de dons receveurs, mais de donneurs receveurs, mais voilà, sinon c'est effectivement à un proche. Ce qui permet de réduire le temps d'attente, ce qui permet d'avoir des greffes qui se passent vraiment super bien, de très 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 bonne qualité, très efficace. Mais bon, voilà, encore une fois, faut-il avoir
une personne dans son entourage.
Et on peut vivre avec un rein.
Les donneurs sont évidemment hyper sélectionnés, c'est-à-dire bénéficient d'un check-up médical ultra complet.
Pour pas qu'ils se mettent en danger.
Pour ne prendre aucun risque vis-à-vis des donneurs.
Ok, très bien. Et l'expression « ça coûte un rein », du coup, ça vient de ça? C'est que c'est un engagement...
C'est totalement gratuit.
Oui. Oui, non, mais je veux dire, l'expression, c'est le fait qu'un rein, c'est précieux.
Ah bah, c'est tout précieux. À fait, tout à fait. Okay. C'est très, très précieux, effectivement.
Très bien.
Et je pense qu'on ne s'en rend pas compte tant qu'on n'a pas côtoyé les personnes souffrant d'insuffisance rénale chronique.
Ouais.
On ne peut pas s'en rendre compte.
J'ai vu sur votre Eloasso, vous parlez d'activités physiques adaptées. C'est des actions qui sont mises en place par l'association, du coup ?
Alors, en effet, donc, on parlait de l'alimentation, de la diététique. On ne peut pas envisager une prise en soin sans de l'activité physique, puisqu'on sait qu'aujourd'hui, la sédentarité, c'est un facteur de risque d'aggraver telle ou telle pathologie. Et donc, on a des enseignants d'activité physique adaptée qui, ponctuellement, veulent bien nous organiser un atelier autour... on a l'expérience de la marche nordique. Donc, c'était un atelier organisé par à la fois une personne qui est Elisabeth, qui est APA, et également APA, donc activité physique adaptée,
ouais.
Et également donc championne de France de marche nordique. Et donc, les patients ont vraiment adoré cette activité, puisque c'était une découverte. Et très valorisant pour eux, puisqu'ils se rendent compte qu'ils peuvent faire des choses.
Ouais.
C'est ça aussi qui est important, c'est de dire, on démarre, comme on dit, on démarre petit, tout le monde peut faire de l'activité physique à partir du moment où c'est adapté à ses possibilités.
Et l'activité physique, c'est pas que pour le corps, c'est aussi pour le moral, ça fait beaucoup de bien.
Absolument, c'est exactement ça. C'est, comme je dis, c'est de la confiance en soi qui augmente, c'est le bien-être, la qualité de vie qui augmente, et forcément, donc, on va avoir une répercussion sur le moral. Et l'envie de poursuivre, justement, c'est ça. Donc, on a également Romain qui propose qui est aussi enseignant d'activité physique adaptée, qui avait proposé du tir à l'arc, multi-activité que les patients ont découvert. Et les retours sont vraiment très satisfaisants.
Ok. Si on veut en savoir plus sur l'association Bouge ton rein, il y a un site internet, il y a des réseaux sociaux.
Alors voilà, on est encore tout petit, donc on n'a pas encore le site internet. En revanche, on a une page Facebook Bouge ton rein où on relaie toutes les activités, tout le programme
tous les rendez-vous que vous donnez, etc.
Voilà, exactement. Ouais. On a Instagram également, on a LinkedIn. Et puis un mail où on peut nous écrire
contact@bougetonrein.org.
Exactement. Voilà.
Pour vous contacter. Et le prochain rendez-vous, vous m'avez dit, il y a la journée mondiale du don d'organes, c'est le 22 juin.
C'est la journée nationale de réflexion sur le don d'organes, effectivement, le 22 juin. On aimerait faire quelque chose. On est soutenu par la mairie de Belleville, notamment, qui... était bien partante pour qu'on fasse quelque chose à cette occasion-là.
Ouais.
Et après, pareil, voilà, la journée mondiale du don d'organes, ce sera en octobre. On aimerait bien refaire quelque chose, parce que l'année dernière, on a fait un ciné-débat sur le don d'organes du vivant.
Ok.
Et puis voilà, on a plein d'idées.
Super. Voilà. Ouais, c'est vrai qu'on aimerait aussi former les professionnels de santé. On se rend compte que même qu'on soit médecin généraliste, qu'on soit pharmacien, on a ce projet-là de faire une action pour
les sensibiliser
okay. Exactement.
Et est-ce qu'on peut vous rejoindre et faire partie de l'association Bouge ton rein ? Est-ce que vous accueillez des nouveaux bénévoles ?
Alors oui, tout à fait. On a besoin de monde. En effet, comme je disais, on a des patients qui sont très investis, mais en effet, si d'autres personnes veulent rejoindre Bouge ton rein, n'hésitez pas à nous écrire. Ouais. L'adhésion est à 5 €. Donc,
Et il y a le Hello Asso, on peut s'inscrire en
ligne. Hello Asso, Bouge ton rein, vous pouvez faire des dons. L'adhésion, je répète, est à 5 € et c'est ouvert à tous.
Bon, super. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous parler de cette association et puis de cette question de santé qui semble plus importante que ce qu'on pense, en fait.
Et exactement. Merci à vous.
Merci beaucoup
de nous avoir reçus.
À bientôt.
À bientôt.
Calade sur le 100.9 et radio-calade.fr.